Popopien, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Ce message est enregistré depuis loin, mais très très loin. Et pour tout vous dire, je suis actuellement sur une plage paradisiaque dans le Nord-Pas-de-Calais, vêtue uniquement d'un pagne. Et je suis en train de siroter un cocktail dans une noix de cucu.
Antoine, vous êtes juste en train d'aspirer le fond d'une vieille canette du bureau, là.
Ah bon ? Bon, en tout cas, c'est presque pour cette raison que je vous propose aujourd'hui un maxi best pop. Entendez le condensé du meilleur de Popopop depuis sa création en 1702. Vous vous souvenez de mon mixeur de pop culture ? Eh bien, c'est pareil, on a mixé tous les meilleurs moments de l'émission pour vous en livrer le meilleur.
France Inter, le maxi best Popopop, Antoine de Caunes.
Alors, au menu du maxi best pop du jour, une spéciale chicha, avec en toute simplicité un oscarisé et deux césarisés.
Oh, Antoine, vous la racontez un peu, non ?
Mais non, mais c'est vrai, Alexandre Desplat et Arnaud Robotini qui vont assurer la BO de ce maxi best pop, spécial cinéma du jour, avec à leur côté l'actrice Goldshifteh Farahani et l'acteur Pierre Ninet.
C'est vrai que c'est quand même super chic.
Oui, bon, enfin, d'ailleurs, faisons lancer cette émission par un des deux césarisés.
Je suis Arnaud Robotini et vous écoutez Pop. Pop, pop, pop.
Pop.
C'est moins bien. C'est moins bien.
Et maintenant, demandons à un oscarisé sa définition de la pop culture.
La pop culture, c'est... Ce sont les couverts Russell Wright en bakélite dans lesquels nous prenions nos repas quand j'étais enfant. Voilà. Qui était donc créé dans les années 50 aux États-Unis et comme vous savez, les années 50-60, c'est vraiment l'explosion de la pop culture aux États-Unis. Mmh. Et mes parents vivaient là-bas, en fait, avant que je sois né. Et sont revenus vivre en France. En tout cas, mon père est revenu en France. Ma mère est grecque et venait de Grèce. Mais ils sont venus vivre en France avec leur couvert, leur frigidaire, qui était aussi un frigidaire américain. Ils ont déménagé leur maison américaine de San Francisco. Ils étaient à Berkeley, à l'université, avec tout ce qu'ils avaient dans leur maison. Parce que c'était des jeunes mariés. Et ces couverts Russell Wright, par leur couleur, par leur forme, par leurs matériaux, pour moi, c'est vraiment ce qui évoque pour moi le plus proche ma pop culture.
Alors pardon, je me suis trompé en lançant cette séquence. Alexandre Desplat n'est pas oscarisé, il est doublement oscarisé.
Oui, bah on sait, n'en faites pas trop non plus Antoine.
Mais vous avez raison, je reprends mes esprits, le temps d'écouter la très bonne BO du film Black Panther avec le morceau The Ways, signé Khalid avec Swae Lee. Most of them gon' talk, I know, I know. Most of them gon' fall, I know, I know. We gon' bet it all, I know, oh, oh, oh. We gon' bet it all, I know. Power girl, I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna know your ways. I really wanna power girl. You've been running through my section all day.
So many times, but I still have you. Show me how you do it like that. Carrying a brother is no easy on your back. I know most of them don't talk.
Khalid et Swahili, c'est dans la BO de Black Panther et c'est dans ce Maxi Best Pop spécial cinéma. Pierre Ninet est pop, c'est comme ça, nous l'avons décrété. Mais ses choix le sont-ils aussi? Eh bien, réponse avec sa pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série, un jeu vidéo. Pour le film, votre choix s'est porté sur The Truman Show, un film réalisé par Peter Weir en 1998, extrait de la bande-annonce.
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, c'est interdit!
Pourquoi? Il y a quoi de l'autre côté?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Truman Burbank.
J'ai pas le droit de t'adresser la parole.
Et ils appellent ça...
Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux
que de te trahir.
Que de te trahir.
Et là, on se rend doucement jusqu'au gros plan.
Un divertissement.
Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche.
Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme.
The Truman Show.
On aura bien sûr reconnu la version française. C'est un film génialement visionnaire, c'est ça qui vous a plu,
ouais.
Pierre?
C'est un film qui est à la fois extrêmement divertissant, extrêmement drôle, une vraie comédie dramatique, et en même temps, c'est un film politique. C'est un film sur le voyeurisme, c'est un film sur la société moderne et c'est un film métaphysique aussi, je pense, sur à quoi on croit, sur Dieu, sur les choses qui nous dépassent. Et tout ça, comme les Américains le font très bien parfois dans du beau storytelling, avec vraiment encore une fois le sens du divertissement, c'est-à-dire qu'à tout moment c'est très cinématographique, c'est génial, l'idée, le concept est super et ça tient les promesses du concept.
Dans ce film-là, il y a le grand, l'immense Jim Carrey, une de vos idoles, je crois.
Ouais, complètement.
Vous aimez bien les artistes qui se donnent du mal pour faire rire, pour divertir, comme Jim Carrey?
Je trouve ça extrêmement important. Je pense que le rire dans notre société a une place, en fait, beaucoup plus importante que ce qu'on peut penser de façon commune, de se dire « Ah, oh, c'est léger, les films, léger, les pièces. » Mais je pense que quand c'est bien fait, effectivement, quand c'est fait avec sérieux, c'est quelque chose de très important et quelque chose dont on a besoin et qui mériterait, quand c'est réussi, d'être salué, peut-être même plus que ça l'est aujourd'hui.
Passons au livre. Pour vous, c'est Éducation européenne de tiens, Romain Gary, écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutons un extrait lu par votre ami Guillaume Gallienne.
Il marcha jusqu'à l'étang et suivit un sentier. Il pensait à Zosia. Il se demandait si la discipline militaire exigeait qu'il demandât l'autorisation des partisans avant de l'épouser. Ils allaient probablement se moquer de lui et lui dire qu'il était trop jeune pour se marier. Il semblait être trop jeune pour tout, excepté pour la faim, pour le froid, pour les balles.
C'est émouvant d'entendre la voix de Pierre Berger parler de Romain.
J'y ai pensé en plus.
J'espère bien que vous y avez pensé.
Forcément, j'y pense. Je rentends un peu de Pierre Berger. Ouais.
Est-ce que vous avez lu Romain Gary pour devenir Romain Gary dans La Promesse de l'Aube ou est-ce que vous lisiez déjà Romain Gary avant de devenir Romain Gary?
J'avais seulement lu La Promesse de l'Aube quand j'étais au lycée et sinon j'ai vraiment découvert son œuvre et ses livres en me documentant pour préparer le rôle. Ouais. Et Éducation européenne, je m'en rappellerai toujours parce qu'en fait, je connaissais pas ce livre et comme c'était évident qu'il fallait que je le connaisse par cœur. Parce que c'est ce qu'il écrit pendant La Promesse de l'Aube. Il raconte qu'il écrit ça pendant qu'il bombarde les Allemands, entre deux vols dans les avions, dans les bombardiers. Il écrit ce livre la nuit pour rendre sa mère fière, et puis aussi pour dresser un portrait de la résistance à ce moment-là. Et c'est exceptionnel. Le livre est bouleversant de, je sais pas, de poésie, de vérité, et en même temps de ce que ça raconte sur l'Europe, sur les valeurs européennes. C'est très, très moderne, c'est très beau.
Et une période de Romain Gary, on ne connaît pas son visage à ce moment-là. Mm-hmm. Il y a très peu d'images qui circulent de lui.
Bah d'ailleurs, c'est quand ce livre va être édité qu'il y a une des premières photos officielles où on le voit posé avec le livre édité en anglais qui s'appelle Forest of Anger. Mais oui, avant ça, on ne connaît pas bien son visage. Non.
Pour la série, vous en citez deux, Breaking Bad, une série créée par Vince Gilligan. Voici un extrait de la bande-annonce.
La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change.
Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui. Cancer du poumon. Inopérable.
Pourquoi vous êtes là?
Tu connais le business. Et je connais la chimie.
Dites-moi pourquoi vous faites ça. Allez, sérieux.
Je me suis réveillé.
Breaking Bad donc, mais aussi The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, créée par Bruce Miller. Tout petit extrait.
They filled the air with chemicals and radiation and poison.
So God whipped up a special plague. The plague of infertility.
Alors pourquoi l'une des deux est-elle en français et l'autre en version originale? Voilà une question à laquelle seul Ghislain Fontana, notre réalisateur, pourrait apporter une réponse satisfaisante. On verra ça après l'émission. Enfin, en tous les cas, deux séries à l'opposé l'une de l'autre. Pourquoi ces deux choix terminés?
Je sais pas si elles sont à l'opposé, elles sont, je trouve, enfin, oui, les thèmes sont pas du tout les mêmes, c'est sûr. Mais par contre, c'est vraiment le renouveau des séries maintenant avec l'idée de qu'on passe du temps à écrire bien les choses, quoi, avoir des vrais auteurs qui travaillent profondément, des ambitions qui pourraient être pour chaque épisode celle d'un long métrage, de faire quelque chose d'aussi qualitatif, d'aussi intéressant, d'aussi cool. Et Breaking Bad, parce que moi, c'est la première fois que vraiment je me suis fait attraper aussi fort par une série de ma vie, quoi. Vraiment, où je me suis dit, bon, il y a eu 24 heures chrono, parce que c'était un peu vraiment le début du truc, on se disait, ok, voilà. Mais Breaking Bad, c'était le moment où je me suis dit, avec des personnages incroyables, des prestations. Bon, on aura compris, j'adore les acteurs de comédie, et je trouve qu'il y a une sensibilité chez les grands acteurs de comédie. Et moi, j'ai connu Bryan Cranston dans dans la série Malcolm. C'est un génie comique, quoi. Vraiment, moi, j'étais fan de ce gars, c'est le plus fort dans la série, il est extraordinaire. Et d'un coup, quand je le vois dans Breaking Bad, il y a rien qui me fait plus plaisir que ça, de me dire, ok, c'est vraiment, il fait partie de cette famille des extra-lucides, quoi. Les gens qui arrivent à capter l'entièreté, quoi, la dimension tragique et en même temps la dimension comique d'une situation. Enfin, pour moi, je vois ça, c'est ce que je me raconte.
Et vous êtes plutôt servante, épouse ou dealer, faut choisir au bout d'un moment.
Ouais, je sais, mais j'ai du mal, je crois que j'aime bien les trois.
C'est pas incompatible.
Ouais, c'est pas forcément incompatible. Mais voilà, et puis non, la servante écarlate.
La charge mentale, c'est ça.
Vraiment.
Bon, au rayon jeux vidéo de ce supermarché de la pop culture, vous prenez GoldenEye 007. Ce first person shooter, c'est un jeu de tir à la première personne, sorti en 1997 sur Nintendo 64 et qui a révolutionné le genre. Vous avez passé combien d'heures à jouer à ça?
Je sais même pas, mais tellement, quoi. Le mode solo et puis évidemment le mode A4 pour ceux qui ont déjà joué, vraiment, l'écran qui était splitté en 4, tu voyais rien, t'étais obligé
heures.
De te coller à la télé. Ouais, c'était ça pour le coup. Franchement, je sais pas, j'ai fait des nuits entières avec des potes et ce jeu reste génial, quoi. Tu joues encore maintenant, c'est, je sais pas, les gars, on fait un bijou total et puis l'ambiance GoldenEye, Tina Turner, toute cette époque. J'adore.
Et vous y jouiez en vous disant un jour je serai James Bond moi aussi?
Je crois même pas, non. Non. J'y jouais en disant j'espère que j'aurai mon bac surtout.
Ça vous amuserait aujourd'hui si on vous proposait un James Bond?
Ah ouais, un méchant dans un James Bond, ouais, je l'ai dit souvent parce que c'est un des trucs que j'aimerais beaucoup faire. Ouais.
C'est pas impossible, ils aiment bien mettre des Français dans les méchants. Dans
ouais,
James
ouais,
Bond.
Pourquoi pas. Ouais, il y en a eu un dans Matrix, un dans James Bond, ouais.
Ouais, ou une version française de James Bond.
Ou SS?
Jambon.
Ah. Ouais.
Et enfin une chanson, et là vous les choisissez eux. Le groupe Jungle et le morceau Busy Earning, un morceau de 2014. Et j'ai le souvenir de vous avoir vu danser sur la table du Grand Journal en compagnie de Christine and the Queens pendant un live de Jungle, justement.
Ah, c'est vrai, c'était eux. Eh ben, je me rappelle super mal, en fait. Bah ouais. Bah c'est peut-être là que j'ai eu le virus, alors, parce que depuis, j'arrête pas d'écouter. Eh oui.
Qu'est-ce qu'elle vous fait, cette chanson? Qu'est-ce qu'elle provoque?
Je sais pas. Je trouve que ça. Ça me met toujours de bonne humeur, toujours envie de danser. Je trouve que c'est ultra maîtrisé, ultra bien produit. J'adore leur clip aussi. Il y a un clip qui n'est pas sur celle-là, qui est sur une autre, je crois que c'est The Heat, où ils sont en roller avec du Steadicam. C'est super fluide, c'est magnifique, c'est danser sur des rollers, c'est du Charlie Chaplin, quoi.
Alors je résume, Truman Show, Romain Gary, Breaking Bad, The Handmaid's Tale, GoldenEye 007 et Jungle. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
Pourquoi vous êtes là?
Il contrôle une vie.
They fill the air with
tu connais le business?
Chemicals and radiation.
Et
and
je connais la chimie.
Poison.
Et ils appellent ça un divertissement.
Il se demandait si la discipline militaire exigeait qu'il demandât l'autorisation des partisans avant de l'épouser.
Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme.
Du Pierre Ninet compressé comme un César, j'ai envie de dire.
Ah, complètement, là. Hein? I can't get enough.
Avant de continuer ce maxi-best pop-pop-pop, oui, le nom est un peu compliqué, je le concède, même Marie-Pierre Planchon, la voix de l'antenne de France Inter, s'y perd.
Le maxi-best sur France Inter.
Enfin bref, avant de continuer ce maxi-best pop 100%, tchitcha, impossible de ne pas citer celle dont le prénom signifie « une fleur ». folle d'amour.
Oui.
Oui.
C'est moi.
Bonjour.
Bonjour.
Goldshifté Farahani.
Antoine,
faut fermer la bouche, Antoine. Ah, oui. Et c'est valable aussi pour toute la régie hein, là-bas derrière, je vous vois.
Okay. C'est à mes côtés, Charline Roux. Attendez, que signifie Charline en Picard déjà ?
Que ma mère a lu des romans photos.
Goldshifté Farahani, vous êtes à l'affiche de La Nuit à dévorer le monde, qui nous projette au beau milieu d'un Paris dont les habitants, d'ordinaire si souriants et accueillants, hein, surtout pour les touristes, ont été mystérieusement transformés en autant de zombies affamés. Alors, d'abord, question personnelle, le Parisien, est-ce que vous le préférez au naturel ou en zombie ? Ou bien est-ce que c'est une métaphore qui vous semble particulièrement juste ?
Non, j'ai rigolé. Il y a des différences. Les Parisiens, bon, quoi que ce soit, justement, on disait, ils râlent, même en zombie ou sans zombie. Mais c'est drôle, parce que là, je trouve, là, on va tous dire, oh, c'est un film zombie, on n'a pas envie de voir un film zombie, mais c'est vraiment un très beau film métaphorique. C'est pas un film de zombies, ça.
Non, mais il y a des zombies.
Il y a des zombies, mais des zombies représentent plein de trucs et c'est beau. C'est vraiment, c'est pas un film zombie, quoi. Il y a des zombies, comme à Paris.
Alors, écoutons un extrait de la bande-annonce.
T'as échappé à tout. Tu croyais que t'allais crever tranquillement dans ton sommeil. Et il arrive. Ça.
Sam, qui se réveille un matin dans cet appartement où la veille encore la fête battait son plein, Sam doit se rendre à l'évidence. Il est tout seul et des morts vivants ont envahi les rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger, s'organiser pour continuer à vivre. Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ?
Waouh !
Mais de toute évidence, non, puisque vous allez débarquer dans la vie de Sam et que vous ne jouez pas une zombie. Vous aimez doublement vous faire peur, vous participez à un premier film et un film de genre en même temps.
Quand j'ai lu le scénario, parce que c'est une histoire personnelle pour moi, cette histoire, parce que moi je crois qu'on va un jour vivre ce moment-là, le moment qu'il n'y a pas d'électricité, le moment qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de nourriture, et les villes sont vraiment les endroits plus vulnérables. Je vois ça, je sens que ça va venir, et pour moi quand j'ai lu le scénario, j'ai dit waouh, quelqu'un en France, à Paris, pense à ça, c'est quand même très rare parce que ici on est un peu, on n'y croit pas en plein truc parce que rien ne change, tout est la même chose pendant des années et des années. Et voilà, c'est ça, c'est pour moi, ça, même quand j'ai vu le film, j'étais vraiment étonnée. D'abord, je ne m'y attendais pas que ça soit un tel beau film et c'est vraiment touchant et en même temps. C'est un métaphore de tous ces zombies-là, de notre téléphone, de tout ce qu'on vit de tous les jours. Il faut sortir de ça. C'est vraiment difficile et on est seul. On est seul si on n'a pas envie d'être comme les zombies. On n'a pas envie d'être dans la consommation de tout ça. On est seul.
Ça va finir par arriver, dites-vous, mais finalement, une bonne apocalypse, ça ne serait pas la solution à tous nos soucis, notamment à la hausse des montants compensatoires ?
Quoi ?
C'est une obsession chez Antoine, le montant compensatoire.
Non, est-ce que ça ne serait pas une solution, en fait, une petite apocalypse ?
Ouais. En fait, ce n'est pas une solution, c'est ce que ça va nous arriver, finalement, si on continue comme ça. Non, mais vraiment, c'est vraiment l'ignorance de nous, de les êtres humains, sur tout ce qu'on vit, sans vraiment poser les questions, ça va arriver un jour.
Je refuse de manger Antoine, hein, je le précise maintenant.
C'est déjà
vous, Goldshifté, si vous vous retrouviez quasi seul au beau milieu d'un Paris peuplé de zombies, vous feriez quoi ? Parce que vous semblez être prête pour l'événement, donc est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous allez faire ?
À Paris ? Oh merde.
Ou ailleurs, hein, si vous préférez.
Non, ailleurs ça va être mieux, parce que non, à Paris probablement je vais voler un bateau sur Seine et je vais essayer de le mettre en marche et aller quelque part sur la Seine. Je crois que c'est rigolo aussi.
C'est une bonne voie, une bonne échappatoire. alors, votre partenaire Anders Danielsen Lee, vous l'avez cité, il y a aussi Denis Lavant hein, qui réussit la performance de jouer un zombie quasiment sans maquillage.
Non.
Dans une case d'ascenseur. Mais avec le héros du film, vous êtes la seule non-zombie du film. Ça vous amuserait de jouer une zombie ?
Oui, beaucoup. En fait, oui, moi j'aime bien jouer les rôles inattendus et même méchantes. Et je crois que je peux faire. Spécialement les voix pour dessins animés, je crois que ma voix c'est pas mal pour les méchantes, vraiment. Ça peut être vraiment, ça peut très bien marcher. J'attends.
On en revient à Hôtel Transylvanie. Hein,
oui, toujours. Les serpents, je sais pas, la méchante.
Moi, je me posais la question en regardant le film, pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de zombies véganes au cinéma?
Vegan, ouais, c'est ce mouvement-là, tous ces mouvements New Age, ça me saoule. J'en peux plus, mais je peux pas dire ça en France parce qu'on est très en arrière. Non, on est en arrière en France. C'est bien pour les Français, c'est pas mal. Mais où je suis dans le milieu, c'est vraiment ce truc de vegan, yoga, tout ça, ça me saoule, j'en peux plus. Non. Non.
Hard rock, viande et apocalypse. Ce sera le résumé.
France Inter. Le maxi best pop. Antoine Decaune.
On reste dans la musique avec ce maxi best pop spécial cinéma et ce groupe pop qui pourrait composer des BO de films. Bonjour, Prévert Pavot.
Bonjour.
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 Oh, bah ça a l'air enthousiaste. Hein. Vous êtes content d'être là. Hein? Alors Émile Sornin, vous êtes le leader du groupe Forever Pavot, on vous connaît bien ici dans Pop Pop Pop, hein, car nous vous avons déjà reçu pour parler des 10 ans de Born Bad Records, le label sur lequel vous signez La Pantoufle, ce nouvel album. On vous connaît vous donc, mais on ne connaît pas encore vos collègues, vous pouvez nous les présenter?
Bien sûr, alors à ma droite Maxime, il y a Maxime Daoud qui est bassiste.
Bonsoir.
Et Arne Sèche qui joue de la flûte traversière, des percussions, du synthétiseur, des guitares...
Homme à tout faire.
Je prendrai. Bonjour.
Maxime, Arnaud, quand vous avez dit à vos mères que vous jouiez dans un groupe qui s'appelle Forever Pavot, ça a réagi comment?
Ça allait. Ça allait parce qu'on venait de quelque chose d'un
de
peu
pire.
Plus
violent.
De bien pire.
On voilà. Pire et on a marqué une progression. Ouais. C'était une promotion, Forever Pavot.
Je crois que ça a plutôt fait plaisir aux mamans.
Vous voulez qu'on en parle?
Je suis pas sûr qu'on puisse en parler sous ce
titre. Alors juste avant de vous laisser monter sur la scène imaginaire de Pop Pop Pop, hein, qui est juste au-dessus de la cave, pour jouer La Pantoufle et dans Le Puits, j'ai une question pour vous, Émile. Où en êtes-vous des lectures de la collection Chair de Poule? Vous en aviez parlé ici dans votre pop list.
Ouais, ouais. Mais c'est plus un truc d'enfance, c'est un truc que je les ai pas relus. Hein, c'est un truc.
Ouais.
Mais pourquoi pas? Mais non, c'est moi, c'est un truc qui m'a vachement marqué dans mon enfance. Et je pense que Maxime Arnaud aussi, c'est un truc de notre génération.
Ça vous a marqué, Maxime Arnaud?
Assez, oui, il y avait quand on était petit, je crois, sur M6, Les Contes de la Crypte.
Oui, c'est lié aussi, c'est complètement la même chose. C'est
la même
chose.
La création de l'horreur.
Mais pour les enfants.
Maxime, vous pouvez parler librement.
Non, moi, j'avais pas peur quand j'étais enfant.
Très bien, voilà, le point littéraire étant fait, je vous laisse vous installer sur notre petite scène Forever Pavot en live dans Pop Pop Pop. C'est tout de suite, juste après le pop.
pantoufle. Eh oui, elle est toute seule, c'était en live dans le studio de Pop Pop Pop. Vous écoutez le Maxi Best Pop de France Inter, c'est-à-dire tous les meilleurs moments de l'émission passés, voire hachés dans mon mixeur de pop culture. Je le disais précédemment, nous avons reçu un césarisé.
Pop Pop Pop.
C'est l'heure d'accueillir l'auteur de la BO du film qui nous a fait tous battre le cœur un peu plus vite, 120 battements par minute de Robin Campillo. Bonjour Arnaud Robotini.
Bonjour.
Vous signez la bande originale du film Sensation de la rentrée. Avant d'en parler avec vous, la petite bande-annonce.
Catherine de Médicis demande à Ronsard...
Bonjour tout le monde, nous sommes Acteurs Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer.
Mais qui vous a donné l'autorisation?
Non, il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour l'appellation.
Ne regardez pas
ça. Il faut savoir que vous regardez pas si de bel et bien.
Oh, je vous demande de quitter cette salle.
Nous vivons le sida comme une guerre. Une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant, nos amis meurent. Et nous ne voulons pas mourir. Nous nous battons contre ceux pour qui l'épidémie est une aubaine car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. À Acte Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. Rejoignez-nous.
120 battements par minute de Robin Campillo. C'est un film absolument extraordinaire, magnifique, indispensable. Et on vous le recommande ici aussi chaudement à Pop Pop Pop. Arnaud Robotini, 120 battements par minute, c'est un indicateur de tempo musical ou cardiaque. Et dès le titre du film, vous mettez l'accent sur le rôle de la musique, peut-on lire dans le communiqué de presse du film. Parlez-nous justement du rôle qu'elle occupe cette musique dans le film.
Ben en fait elle occupe le rôle que donc c'est sous la direction de Romain Campillo qui est quelqu'un de passionné de musique qui en parle très bien et qui aurait aimé faire de la musique, donc j'ai de la chance qu'il en fasse pas parce qu'il fait tellement de choses, montage, scénario, que sinon je ferais pas les musiques pour ses films. Donc il m'a demandé de lui faire des morceaux de house pour les scènes de club. Ça c'était les premières demandes, les histoires du battement qu'on entend au début du film, voilà, il avait des idées thématiques comme ça d'éléments et puis d'avoir quelque chose d'assez lumineux, chaleureux et pas du tout sombre. Sur Eastern Boy, on avait fait aussi la musique comme ça, avec un peu sur le même principe, un mélange de musique électronique, des scènes de club ou de danse, et puis du score acoustique plus classique. Et là, en fait, les deux se sont mélangés. C'est-à-dire qu'il y a les morceaux house qui évoquent la house musique que les activistes d'ACT UP allaient écouter en club après leurs actions, et le score classique qui se mélange.
Donc composition purement allegro ou pas? Oui, j'ai fait des recherches, j'ai vu que 120 BPM c'était allegro.
Allegro, il y a la pièce pour piano qui est plus lente, ouais. Voilà, mais après ça dépend des tempos en musique, ça dépend comment on peut les interpréter de différentes manières. Non, c'est plutôt allegro avec des passages très éthérés et qui sont plus là pour souligner les émotions, l'action du film.
Vous êtes d'accord que la musique occupe un véritable rôle dans le film?
Je ne vais pas vous dire le contraire.
Non, mais je veux dire qu'elle n'est pas simplement décorative ou elle sert pas.
Robin avait envie de beaucoup de musique.
Elle a un rôle capital, oui.
Voilà. Ouais. Et puis surtout, elle a ce côté un peu lumineuse. Et les scènes de club sont des vraies respirations dans le film qui est quand même un peu anxiogène, enfin même extrêmement anxiogène.
Ah, c'est pas Mary Poppins, oui.
Oui, voilà. Et ces scènes de club sont un peu. On voit bien la libération. Enfin, l'espèce de côté, j'en parlais. En plus, Romain me parlait beaucoup de la house, un peu garage, donc qui est relié au gospel, donc qui est très relié au blues, et qu'on arrive à une sorte de blues des gays finalement, qui était la house music, qui était l'étendard de ces gens, qui étaient des reclus de la société, les gens qu'on ne voulait pas voir, comme les noirs à l'époque de la ségrégation. Et donc voilà, il y a cette force un peu de la lumière.
Le film 120 battements par minute nous replonge dans les années 90, le quotidien des militants d'ACT UP. Et justement, un de vos premiers souvenirs d'ACT UP, c'est un concert donné par Jimmy Somerville pour l'association avec un morceau Small Town Boy. Écoutez ce que ça donnait. Là, il s'agit donc d'une version que vous avez remixée.
Voilà, en fait, comme il n'y avait pas de version remix correcte des années 90, Robin m'a demandé de faire un remix de Small Town Boy, donc un morceau de 1984, et de le faire, le remix, dans les, comme si... Parce qu'au départ, il voulait tourner cette scène, il voulait refaire la scène du concert qui était des Communards, d'ailleurs. Et puis voilà, ça s'est pas fait, mais il y avait de toute façon l'envie d'avoir ce remix, de le créer finalement.
C'est pas compliqué de devoir travailler, c'est-à-dire en remixant avec votre vous d'aujourd'hui à la manière dont vous auriez pu le faire dans les années 90, ça demande un exercice.
Non, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Ça, c'est simple. Je connais les instruments, je sais comment la musique était faite à cette époque-là, je l'ai un peu vécu. C'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de s'attaquer à un classique comme ça, dont il existe une version originale qui est fantastique, un maxi, une version de 9 minutes sublime, qui était la version originale sortie sur London à l'époque. Et c'est d'attaquer ce genre de classique de la musique électronique. C'est toujours très compliqué de changer la production qui est aussi la quintessence même du morceau. Et puis là, ça s'est bien passé parce que le morceau est quand même assez proche du disco finalement, donc de la house. Il y a peu de changements d'accords. Là, on est sur un truc assez
Vous avez travaillé avec des instruments particuliers, spécifiques, pour obtenir des sons comme ça ?
Oui, bah, tous les instruments qui étaient utilisés à l'époque. Ouais. Je produis la musique électronique, pas avec des instruments virtuels, pas avec un laptop, mais avec les instruments de l'époque. Je suis un peu collectionneur de...
Ah, vous avez gardé tout ça ?
C'est même mon fonds de commerce.
C'est vrai.
Je fais des lives, des concerts avec ces vieilles machines. Et la jeune génération de producteurs est très intéressé par ça. C'est un peu comme le retour du vinyle.
Voilà. Vous avez dû vous replonger dans toute la culture musicale des années 90. Comment est-ce que vous la définissez, cette période ?
En particulier, pour moi, les années 90, c'est le dernier moment où s'est passé vraiment quelque chose en musique. La musique électronique telle qu'on la connaît aujourd'hui, la techno house et le metal extrême, qui est arrivé avec le black metal, le death metal, même des journalistes mainstream comme John Peel, par exemple, il a sorti compile Hardcore Holocaust, qui ont sorti ces groupes ultra extrêmes. Donc c'est le dernier moment où il s'est vraiment passé, il y a eu un changement dans la musique moderne occidentale.
On n'a quand même pas eu que du bon en France dans les années 90. Hein. Je pense notamment à cette chanson de La Rousseau, tu m'oublieras, vous vous souvenez de ça ?
Mais est-ce que c'est pas justement...
On peut plaisanter.
Mais je trouve ça très intéressant dans la mesure où c'est un peu déprimant de se dire que ce qu'on retient aussi beaucoup des années 90, c'est pas forcément ce qui s'est produit de meilleur. C'est un peu l'image qu'on traîne de cette décennie, musicalement, parfois.
Je crois, je sais pas, parce que dans les milieux autorisés, un peu branchés, il y a quand même un gros revival sur tout ce qui est des années 90.
France Inter, le Maxi Best Pop-Pop-Pop, Antoine Lecône.
On reste avec Arnaud Robotini dans ce Maxi Best Pop avec son remix de Small Town Boy.
Bronski Beat, Small Town Boy, remixé par Arnaud Robotini, c'est sur France Inter et dans ce pop-pop-pop spécial cinéma. Après les Césars, passons aux Oscars, car nous avons reçu un oscarisé. Alors, je voudrais que tu me décrives ce que tu as pu ressentir, parce que ça risque pas de m'arriver, hein, je risque pas de recevoir un Oscar, et encore moins pour une musique de film. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Alexandre Desplat au moment où on dit ton nom ?
C'est surtout juste avant, c'est ce qui se passe, les quelques heures qui précèdent, et puis les quelques minutes avant que, quand tu sais que ça va être ton tour d'être en lice avec les quatre autres compositeurs, avec les quatre John Williams, par exemple. Mm-hmm. Et puis voilà, et puis ce moment-là, c'est très joyeux, c'est extrêmement joyeux. Tu essaies de te souvenir du speech que tu voulais prononcer et sur la scène en embrassant trois personnes au passage. Et puis là, c'est le trou noir, parce qu'il y a quand même 5000 personnes devant toi. Steven Spielberg, Meryl Streep. Tu fais un petit peu attention à ce que tu vas dire. Et du coup, tu oublies à moitié des choses que tu voulais citer. Mais c'est un flash comme ça, fantastique.
Et quelques jours avant de recevoir son deuxième Oscar, Alexandre Desplat était dans le studio parisien de Pop Pop Pop.
Pop Pop Pop.
Alexandre Desplat, vous avez une maman grecque et un papa français, c'est-à-dire que vous avez grandi entre ça. Kalsoum.
Ouais, ouais.
Et ça. Vous étiez plus Kalsoum ou musique grecque?
Mais j'ai vraiment été bombardé en fait de musique très différente. Parce que mon père avait été steward à la TWA et il avait rapporté des disques du monde entier. Donc Kalsoum, mais aussi du Fado, Amalia Rodriguez et d'autres diverses panachées de musique du monde. Et ma mère étant grecque, évidemment, on écoutait aussi la musique grecque. Donc il y avait pas, en fait, il n'y a pas de hiérarchie. Et dans ma musique, enfin, dans mon expérience musicale et dans ce que j'écris, il n'y a pas de hiérarchie entre un cymbalum hongrois, une balalaïka russe, des percussions brésiliennes ou un koto japonais. Pour moi, ça fait partie de mon éducation. C'est normal. Il n'y a pas de folklore, en fait. Même si ce qu'on entend, c'est quand même assez folklorique.
Alexandre Desplat, vous êtes à nouveau nommé aux Oscars pour la BO de La Forme de l'eau, chef en boiteur de Guillermo del Toro. Avant que vous nous en parliez, on écoute ce petit extrait de la bande-annonce.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you?
This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions.
C'est le nouveau Guillermo del Toro. Comment trouve-t-on une forme musicale à la forme de l'eau? C'est étrange comme proposition.
Oui, c'est étrange. Il y a un avantage certain, c'est que Guillermo me montre des images et je me concentre, je me souviens sur cette scène d'ouverture, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, sur l'entrée du spectateur dans l'univers du film, et cette scène d'ouverture avec la voix de Richard Jenkins qui nous emmène dans l'univers du conte, c'est un long mouvement de caméra vers l'avant qui passe dans l'eau, sous l'eau, et on arrive dans une pièce où tous les éléments qui sont dans la pièce, les chaises, les tables, et même la personne en train de dormir, sont en train de flotter dans l'eau. Et j'ai essayé de trouver un aspect équivalent à la fois à ce qu'on pouvait ressentir, ce qu'on pouvait voir, mais aussi de ce que serait plus tard l'histoire de cet amour impossible. Mm-hmm. Alors comment on fait? On dort pas beaucoup, on cherche, on essaye, on recommence.
On
prend des bains, bien sûr. Et à un moment, j'ai trouvé une mélodie qui était en forme de vague, celle qu'on entend en ce moment, et qui monte et qui descend comme ça. Et puis on cherche une orchestration aussi qui évoque ça, qui évoque la caresse d'une eau tropicale sur la peau, qui évoque aussi l'atmosphère ouatée, presque sourde quand on est sous l'eau et qu'on entend une musique au lointain. Donc là, j'ai fait une instrumentation qui évoque un peu ça. Tout ça, c'est très subliminal, mais à l'arrivée, ça crée un univers un peu singulier.
On écoute quelques mesures.
« flûte. La flûte,
la
voilà.
La célèbre flûte.
Et oui, il y a 12 flûtes dans
cet instrument d'origine.
Et là, il y en a 12. Oui, je me suis lâché.
Vous jouez l'une des 12
Non, pas dans ce morceau-là, non.
Et avant même la composition, comment est-ce que vous avez réagi quand, il y a 6 ans de ça, Guillermo del Toro vous a dit « J'ai un projet, c'est une histoire d'amour entre un homme poisson et une femme muette ».
J'ai souri bêtement. En tautinant de la tête. Et la fois d'après, c'était quand il m'a vraiment raconté l'histoire plus en détail, nous mangeons des sushis.
Très bien.
Voilà, c'était parfait. Et c'est vraiment en voyant le film que je suis tombé de ma chaise, parce que c'est tellement beau, c'est tellement... je trouve que c'est son plus beau film. C'est Le Labyrinthe de Pan, mais cette fois réalisé par un maître qui n'était pas encore et qui l'est devenu.
Guillermo del Toro a été très très investi dans cette BO, hein, allant jusqu'à dire qu'il s'agissait de sa meilleure collaboration avec un compositeur. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial entre vous qu'on puisse raconter à une heure de grande écoute, bien sûr?
Alors les sushis, de nombreux restaurants dans Paris, je pourrais citer si vous voulez pour le...
Et pourquoi ça a aussi bien connecté entre vous? Vous aviez déjà travaillé ensemble sur la série qu'on évoquait
oui,
avant.
Oui, mais je sais pas, il est mexicain, donc il est quand même très latin. On ne sait jamais pourquoi une amitié se cristallise. Je ne sais pas. On s'est bien entendu tout de suite. Vous savez, parfois des âmes se rencontrent. On a l'impression que je connais plus toujours. C'est un peu comme ça. Et puis il est très chaleureux. Il aimait ma musique aussi. Donc ça aide beaucoup à communiquer. Mm-hmm. S'il avait été rétif, ça aurait été plus difficile.
Il est même allé jusqu'à prêter sa voix à la créature amphibie, une voix mixée. Sa voix mixée avec le son de dauphin.
C'est ça, il sa voix et ses respirations aussi.
Ça donne un truc un peu étrange, hein, du genre...
Un truc un peu étrange, c'est ça.
Non, ça vous confondez avec les Gremlins, c'est pas aquatique, forcément.
Mais j'ai aussi prêté ma voix, en fait, je ne sais peut-être pas, mais j'ai prêté ma voix, puisque je siffle aussi. Ce qu'on vient d'entendre, c'est mon petit sifflet.
Ah. C'est tout ça mélangé dans la voix de la créature.
L'héroïne siffle.
Parce que l'héroïne sifflote, en fait, voilà.
Je vous ai déjà entendu parler de musicalité du cinéma de Guillermo del Toro. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, est-ce que ça veut dire que chez vous, toute image est immédiatement transformée en son?
Eh bien, c'est que certains cinéastes ont tendance à penser à leur récit et à la musique de manière verticale. Cette séquence aura une musique comme ça, cette séquence aura une musique comme celle-là. Alors que Guillermo pense... comme la musique, chronologiquement, le film se déroule de A à Z. Et la manière dont il a monté et filmé cette forme de l'eau est extrêmement musicale. Il n'y a pas de plan fixe. La caméra est tout le temps en mouvement. Donc c'est comme un flow musical. C'est troublant. Bien sûr, les comédies musicales étaient filmées aussi comme ça. Avec une caméra très, très, très mobile. Et je pense que ça influe beaucoup sur le compositeur, évidemment.
Et vous le disiez, pour retranscrire cette sensation aquatique, 12 flûtes, des arpèges, un accordéon, un piano électrique. Est-ce que c'est ça la formule chimique de l'eau appliquée à la musique?
En tout cas, pour ce film-là, oui. Parce que pour un autre film, par exemple Jaws, je pense que...
Bizarrement, l'animal est moins sympathique, la créature est pas...
Et la musique est moins douce.
Oui, c'est ça.
Alors, on le rappelait, vous avez composé les BO de Rouillados,
de Jacques Audiard, du Discours d'un roi, de Tom Hooper, de Coco Avant Chanel, d'Anne Fontaine, d'Harry Potter et l'Héroïque, de la mort de Billy Yates, de Ghostwriter, de Roman Polanski, du Fear Life, de Terrence Malick, de Moonrise Kingdom, de Wes Anderson, d'Argo, de Ben Affleck, de Zero Dark Thirty, de Catherine Bigelow, de Monument Smith, de George Clooney, de Budget, de Gareth Edwards, de Valerian, de Luc Besson.
Ce qui détermine vos choix...
Il en manque.
Je sais, il y en a 120. Ce qui détermine vos choix, au-delà de votre fidélité à certains réalisateurs, hein, les Polanski, Anderson et Audiard, par exemple, c'est la diversité des genres. C'est quoi? C'est de changer de registre?
Oui, mais en tant que cinéphile, je ne peux pas regarder que des thrillers ou que des histoires d'amour. Je regarde tout ce que le cinéma peut proposer, même des comédies. Donc, en tant que compositeur, pourquoi devrais-je me limiter à un genre? Et c'est en plus, je m'ennuierais en tant que spectateur, je m'ennuierais en tant que compositeur, et je vous ennuierais très vite en tant qu'auditeur.
France Inter, le Maxi Best Pop, Antoine Decaune.
Merci Alexandre Desplat, vous écoutez le maxi Best Pop de Pop Pop Pop, et comme vous écoutez quotidiennement Pop Pop Pop, vous savez que ma cave fait partie des studios de cinéma les plus mythiques de la planète.
Mytho, non là vous êtes un peu mytho.
Mais si Charline, rappelez-vous. Oh là là, mais il y a de l'eau, là. Ah bah oui, c'est vrai. Faut ouvrir une porte, maintenant. Oh, putain. Mais c'est une piscine. Mais, Henri, Henri, mon cochon. Mais t'es où, Henri? Ah, t'es là. Attends, bouge pas, j'arrive. C'est pas bête. Tu t'es mis sur une planche. Putain, mais l'eau est glacée. Oh. Écoute, les canots vont venir nous chercher. Il faut tenir encore un peu, Henri. Et moi aussi, je t'aime, Henri. Non, non, ne fais pas ça. Ne fais pas celle qui me dit adieu. Pas ici. Pas maintenant. Tu vas t'en sortir, tu verras. Tu vivras longtemps. Tu vas faire plein de petits cochons que tu verras grandir. Oh, tu mourras très vieux. Cochon bien au chaud dans son lit. Non, mais pas ici, pas cette nuit. Promets-moi que tu n'abandonneras jamais. Promets-le-moi. Ah, oh, mais elle glisse, cette planche. Ah oh, non. Oh oui. Oh
oui. Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar est noir, il n'arrête guère de boire, car sa Katia, sa jolie Katia, vient de le quitter, sa Katia l'a quitté. Il a fait chou blanc, ce grand duc, avec ses trucs, ses astuces, ses ruses de russe blanc. Ma tactique était top, dit Igor, qui s'endort, ivre mort, au comptoir du bar. Un russe blanc qui est noir, quel bizarre hasard se marre, les fêtards paillards du bar, car encore Igor, il dort, mais près de son oreille. Merveille, un réveil vermeil, lui prodigue des conseils pendant son sommeil. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tacati t'a quitté. Tic-tac, tic-tac, tes cocus qu'attends-tu? Quitte-toi tes cocus, tac-tac-tac, quitté et quitter ton quartier. Tacati t'a quitté, ta tactique était toc, ta tactique était toc, tacati t'a quitté. Hôte ta toc et troc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau. T'attends t'attaquer contre ta cocoté, quatre écus tout compté et quitte ton quartier. Tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté, tacati t'a quitté.
Tacati t'a quitté, c'était du Bobby Lapointe.
Oh, mais cette élocution, Antoine, c'est spectaculaire.
Ah, merci, non mais ça va, ça va. Mais il faut bien faire monter un peu la mayonnaise, hein, comme disent les jeunes.
Non, les jeunes ne disent pas ça, Antoine.
Les vraiment. Jeunes, voilà, vous avez raison. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Pop Pop Pop, tout nouveau, tout chaud, comme disent les millennials. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Sonia Leglen à la réalisation, Victoria Asper à la technique, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et notre stagiaire Simon Aresta. On se retrouve demain, donc, mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr ou si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos, il est bon ce cocktail sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast.
Mais c'est quand même curieux de réécouter un best-of, non? Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne devrait pas le rebaptiser le Maxi Maxi Best-of ou le Maxi du Maxi de Pop Pop Pop?
Ta gueule, Ghislain.